Radio
Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Comment évolue l'opération Panthère Noire contre le banditisme urbain? On en parle dans cette émission avec le professeur Norbert Yamba-Yamba, directeur des cabinets du ministre de l'Intérieur. On aura également le général Kasongo Kabwik, commandant du service national. Professeur Norbert Yamba-Yamba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. On vous retrouve dans quelques instants pour échanger autour de l'opération Panthère Noire. Comment préparer la grande session de l'examen d'État? Ce sera notre deuxième sujet du jour à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radioukapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Polydor Bansunga à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi à Kananga, Malandi Washinga avec Okapi Service et Écho d'économie. Venez nombreux pour participer à l'enregistrement des deux grandes émissions publiques dans l'amphithéâtre du complexe scolaire La Reconnaissance sur Tibanda. Au programme, l'électrification de la ville, les routes, la production agricole, l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes. Rendez-vous les lundis 3 et le mercredi 5 juin, des 10h à 12h, pour des moments d'échange inoubliables sur les problèmes qui vous préoccupent. Acteurs de la société civile, associations des jeunes et des femmes, entrepreneurs, leaders d'opinion, éducateurs, acteurs politiques et opérateurs économiques, vous êtes tous le bienvenu. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. N'oubliez pas, l'entrée est libre. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, comment évolue l'opération Panthère Noire contre le banditisme urbain à Kinshasa? Eh bien, vous savez, l'opération Panthère Noire se poursuit avec des résultats encourageants sur terrain selon les informations reçues. À Kinshasa, plus de 500 bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été déjà arrêtés selon le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, il encourage la population à dénoncer ces jeunes qui se livrent au banditisme dans les différents quartiers de la ville. Comment évolue concrètement cette opération sur les terrains? Que deviennent les jeunes qui sont arrêtés? Et dans les cas de cette opération, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Est-ce qu'ils vont, on va les envoyer en prison ou bien ils vont aller à Kanyamakassisé pour faire le champ, produire le maïs et autres? Professeur Norbert Yamba-Yamba, vous êtes le directeur des cabinets du ministre de l'Intérieur. Encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission.
Merci, merci, bonjour. Très content d'être encore ici cette fois-ci pour parler de cette question qui a toujours fait l'objet de notre préoccupation.
Bien, dites-nous à ces jours, quels sont les résultats déjà récoltés dans le cas de l'opération Panthère Noire?
Merci, merci beaucoup. Il faut dire que L'opération Panthère Noire répondait à un besoin réel qui a été non seulement constaté au niveau du ministère de l'Intérieur, mais également au niveau du gouvernement. Et sur base d'une recommandation du ministère et du Conseil des ministres, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait pris les dispositions pour arrêter la possibilité de construire cette dynamique autour des Panthères Noires. C'est comme ça que la police a été responsabilisée, notamment l'unité LENI a été responsabilisée pour, je ne dirais pas traquer, mais en tout cas, éradiquer ce phénomène qui a élu domicile et qui constitue véritablement un grand fléau pour notre peuple. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et donc, la LENI s'est mise au travail. Il faut reconnaître que c'est pas si facile de pouvoir maîtriser une agglomération comme la ville de Kinshasa, de plus de 15 millions de personnes, où les familles sont instables, et que la production de ce qu'on appelle le Kuluna devient chose faite chaque jour. Mais malgré ça, le travail a été fait, et vous avez suivi comment les Kuluna ont été traqués. Certainement qu'il y a eu des dérapages, parce qu'au moment où les choses étaient maîtrisées, il y a même des groupes criminels qui voulaient profiter de cette opération, je sais pas, justement pour poser des actes contrôlés.
Oui, professeur,
la vraie police.
Oui, professeur, vous confirmez qu'à ces jours, plus de 500 Kuluna ont été déjà arrêtés.
Tout à fait, tout à fait. Les gens ont été arrêtés. Certainement que, comme vous avez posé la question de l'intégration, il faut une planification avec Kanyamaka CC, même si la perspective c'est d'avoir plusieurs Kanyamaka CC à travers le pays. Mais en tout cas, nous avons essentiellement Kanyamaka CC aujourd'hui qui se trouve être l'unité de mesure, le centre de référence. Et bon, voilà, nous avons ces gens-là. Mais sur les 500, il y a des gens qui sont dans une situation où les présomptions pèsent autour de la criminalité. N'oubliez pas qu'il existe ce qu'on appelle les cours et tribunaux autour des infractions de droit commun. Mais il y a aussi des gens qui sont récupérables au travers des travaux, au travers des métiers, compagnie, etc. C'est ce qui devrait être fait. Donc, 500 là, je vous les confirme que ils ont été arrêtés. Il faut reconnaître également que c'est chaque jour, hein. Parce que le travail a été fait, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a estimé que il était quand même nécessaire d'avoir des moyens de mobilité. Hein. Vous savez, notre police n'avait pas tous les moyens de mobilité nécessaires pour couvrir l'ensemble de la ville de Kinshasa. Encore que même au niveau des provinces, on en a besoin, c'est pas simplement la ville de Kinshasa. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a donné des jeeps pour permettre véritablement la couverture de l'ensemble de la ville de Kinshasa. Et c'est ce qu'on fait même dans les quartiers les plus reculés, quoi. Donc oui, on trouve si policiers en train véritablement d'opérer, de travailler, voilà.
Alors c'est parmi ces 500, on peut dire que le gros des disons la majorité de ces jeunes ont été arrêtés dans quel quartier de la ville? Parce que souvent on apprend que c'est Ngaba où il y a plus de dans la commune de Ngaba où il y a plus de Kuluna, on parle aussi du quartier Yolo et autres.
C'est dans la périphérie de Kinshasa. Donc, seul le vice-premier ministre est habilité à donner toutes les statistiques nécessaires. Je vous informe simplement que les criminels se retraitent surtout dans la périphérie de Kinshasa, dans les quartiers populaires. Ngaba n'est pas exclu. Donc, mais quant aux statistiques et l'intensité ou la densité dans chaque commune, ça relève de la compétence du vice-premier ministre. Je vous affirme que c'est vraiment dans la périphérie, voilà.
Mais on a appris qu'il y a eu aussi des bavures, par exemple le cas d'une mère et de son fils qui ont été abattus, c'était à la suite d'un dérapage grave de la part des éléments de la police.
Je vous ai dit, il faut faire attention, dérapage de la police. Non, c'est pas confirmé. Nous avons fait une réunion marathon autour de cette question devant le vice-premier ministre. Il a été dit et déclaré que les gens qui ont posé ces actes incontrôlés ne se recrutent pas dans notre police. Et même s'ils pouvaient se recruter dans notre police, ce sont des éléments isolés qui ne sont pas identifiés. Mais tout compte fait, des criminels, je ne sais pas comment, ils arrivent à obtenir les tenues de la police, etc. En tout cas, ils ont posé des actes. Ils ont même, au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on a vu, il y a eu, ailleurs, même dans d'autres communes, il y a eu même des échanges avec la vraie police, la LENI, l'unité qui s'occupe vraiment de la question. C'est tellement qu'il y a eu des rapages. Ce n'est pas une politique délibérée de la police qui se transforme en criminel, mais ce sont des hommes et des femmes organisés comme par le passé, etc., qui profitent véritablement de cette opération pour poser des actes contrôlés. Aujourd'hui, ils sont maîtrisés. Ils sont maîtrisés parce que la vraie police, l'unité qui a la responsabilité, est en train de circuler et de faire la patrouille presque dans tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa.
Bien, on va donner la parole, on va accueillir le général Kasongo Kabwik, commandant du service national. Bonjour mon général.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur le directeur du cabinet.
Bien. Oui, bonjour mon général.
Bien, mon général, quelle appréciation ou comment, voilà, quel est votre avis quelques jours après le lancement de l'opération Panthère? Comment vous appréciez l'évolution de cette opération?
Je dirais que ce n'est pas à moi d'apprécier l'évolution de l'opération. Cette opération est faite sous la coordination de l'autorité de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est lui qui a tous les éléments pour apprécier l'évolution de la situation. Mais déjà d'emblée, juste à voir, on sent qu'il y a un travail efficace qui est fait. Parce que déjà, nous, au niveau du service national, quelques éléments ou quelques personnes qui sont appelées Kuluna ont été, à l'issue de cette opération Panthère Noire, ont été mis à la disposition du service national pour encadrer. Et donc, moi, je ne saurais pas évaluer, n'étant pas dans l'organisation, et l'organisation ou la supervision de ces opérations étant sous l'autorité de son excellence, monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, je ne saurais pas émettre un avis, mais quant à la mise en œuvre, c'est-à-dire à la récupération et à l'encadrement de ces jeunes, je peux vous attester que quelques jeunes ont déjà été mis à notre disposition par le service national pour encadrement.
Mmh. Alors, comment vous comptez les encadrer, voilà, concrètement?
Comme vous le savez, le service national, qui est cet organe paramilitaire, qui a comme mission d'encadrer la jeunesse, nous le prenons dans les cas d'espèce, nous les amenons à Kanyamaka CC, deux vagues sont déjà parties. Ils vont, comme on l'a fait avec les autres, une formation paramilitaire suivie de l'encadrement civique et patriotique, ensuite suivra la professionnalisation pour leur réinsertion. Deux vagues de 325 chacune sont déjà parties à Kanyamaka CC au départ de Kinshasa. Et après-demain, il y aura une autre vague et le lundi, une autre. Chaque fois que la police mettra des jeunes à notre disposition, nous les prendrons pour les amener à Kanyamaka CC.
Bien. Et dès qu'ils arrivent à Kanyamaka CC, comment ils sont accueillis? Comment s'est fait le... vous avez parlé de la formation paramilitaire, en quoi elle va consister, etc.
Non, il y a la prise en charge est totale et complète. Je ne saurais pas vous donner tous les détails. En ce qui concerne la formation paramilitaire, sous réserve, tu sais, de secret défense, je ne sais pas vous donner les détails de toute la formation paramilitaire, comment elle s'est fait. Mais nous les faisons, l'objectif, c'est pour préparer les jeunes à la discipline, pour leur inculquer des bonnes valeurs de discipline. Vous savez, le grand problème que nous avons avec notre jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de repères, elle n'a plus de discipline. Elle s'adonne à n'importe quoi, la jeunesse pense, quoi qu'il n'y a pas d'autorité de l'État, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de règlement. C'est comme ça, lorsqu'ils viennent dans cette phase-là de formation paramilitaire, entre autres, ils reçoivent le cours de règlement militaire, qui présente ce qui doit être un bon citoyen ou un bon militaire, parce qu'ils sont maintenant paramilitaires, ils doivent obéir au règlement militaire. Il ne leur est pas permis de faire n'importe quoi. Ils doivent être des éléments très disciplinés, parce que sans la discipline, vous conviendrez avec moi, on ne saura rien faire. On ne saura rien faire de bon.
Et ils apprennent aussi le civisme.
Oui, après cette formation paramilitaire, il y a l'encadrement civique et patriotique où nous formons des bons citoyens. Où nous formons les bons citoyens, nous leur inculquons des bonnes valeurs de patriotisme et de civisme. Nous leur disons qu'il n'y a pas que eux qui doivent attendre du gouvernement ou de l'État, mais ils ont aussi des obligations vis-à-vis de l'État. Ils doivent servir leur nation. Ils doivent être bons citoyens. Hein, c'est comme ça que nous insistons beaucoup sur le serment du bâtisseur qui comporte 10 articles où ils s'engagent à aimer leur pays, à servir leur pays, à aimer les dirigeants du pays, à respecter les lois de la République, à être productifs. Vous savez, il y a un peu de tout ça. C'est dans l'encadrement civique et patriotique. Quand ils auront maîtrisé tout cela, on sent que vraiment ils ont changé. On a reprogrammé mentalement ces jeunes gens-là. C'est au moment-là qu'ils vont aller à la professionnalisation. Ils vont apprendre maintenant leur métier avant d'être lancés dans la vie active.
Bien. Alors là-bas, ils vont tous faire les champs parce que j'imagine parmi eux, il y a certains qui ont peut-être des aptitudes en électricité, en menuiserie ou dans d'autres secteurs. Est-ce que d'abord, vous allez tous les utiliser dans les champs des maïs ou bien on va les orienter selon leurs aptitudes?
Il y a plusieurs filières qui sont organisées au service national et principalement Kanyamakacc. C'est vrai, il y a une partie qui choisissent d'évoluer dans l'agriculture. Il y a ce que nous appelons, nous formons des ouvriers agricoles, nous formons les gens à la mécanisation agricole qui est vraiment spécifique. Hein, vous savez, la mécanique automobile et les autres mécaniques sont plus ou moins différentes de la mécanique agricole. C'est vraiment une spécialité, il y en a qui s'adonnent à ça. Nous formons des menuisiers, nous formons des charpentiers, des peintres, des électriciens, des mécaniciens. Il y a vraiment une panoplie d'activités qui sont faites là-bas. Parmi les gens de la deuxième promotion, il y en a même. Parmi eux, nous avons sélectionné des jeunes qui ont été envoyés en Afrique du Sud pour suivre une formation des machinistes de locomotives. Parce que le commandant suprême de forces armées, le président de la République et chef de l'État, venait de mettre à la disposition du service national du matériel ferroviaire, c'est-à-dire des locomotives ainsi que des wagons. Et pour anticiper, nous avons sélectionné parmi ces bâtisseurs qui étaient en formation à Kanyamakacc un certain nombre d'entre eux qui ont été envoyés en Afrique du Sud pour suivre la formation. Et ils sont revenus au pays pour utiliser ces locomotives et ces trains. Donc il y a vraiment une panoplie de filières qui sont organisées au service national.
Bien, il y a beaucoup de filières qui sont organisées là-bas. Nous parlons de l'évolution de l'opération Panthère Noire contre le banditisme humain et le banditisme urbain, je veux dire. Et voilà, et qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes après, voilà. Et ils sont envoyés par groupe, par série, au service national pour devenir des bâtisseurs. Professeur Norbert Yambayamba, à part le service national, est-ce qu'il y a d'autres filières ou d'autres activités? Comment vous comptez les encadrer aussi dans d'autres secteurs?
Bon, vous savez, nous sommes dans une société où il y a une répartition des rôles. Nous avons la responsabilité de mettre de l'ordre dans notre pays, mais lorsqu'il s'agit de l'encadrement, il y a des services qui sont reconnus avoir la compétence par rapport à cette question. Et vous venez de parler avec le général Kasongo qui assure la direction, hein, n'est-ce pas, du service national. Certainement qu'il y a des réflexions qui se font aujourd'hui, parce que vous avez suivi, hein, ceux qui sont arrivés à Kanyamakacc sont venus de Kinshasa. Et les phénomènes se retrouvent un peu presque partout dans nos provinces. Il s'agit d'une question d'instabilité de famille. Et alors maintenant, il faut arriver au-delà de Kanyamakacc, le général peut s'occuper aussi des antennes, d'autres centres dans des provinces, etc. Ça, c'est un travail assez difficile parce que ça nécessite les hommes, ça nécessite de moyens, etc. Mais la perspective, c'est d'avoir différents centres à travers le pays pour que, dans la proximité, les gens soient véritablement encadrés et quand ils terminent, ils peuvent devenir des éléments catalyseurs dans leur milieu d'origine. Mais pour l'instant, c'est Kanyama Kasese qui devient notre lié de prédilection. Le général pourra davantage vous décliner les différents centres qui sont en perspective d'être rendus opérationnels. Mais pour l'instant, nous travaillons avec Kanyama Kasese. Nous avons également appelé les ONG, parce qu'en réalité, il y a des ONG qui, depuis les années 80, sont en train de travailler dans cette perspective. Il y a même des confessions religieuses. Et notre rôle, notre souci maintenant, c'est de dire, si aujourd'hui Kanyama Kasese reçoit, il faut dire que Kanyama Kasese a aussi des infrastructures limitées. Et le phénomène continue chaque jour. C'est que très clairement, on aura autant de personnes des Kuluna qui doivent être reçus. Et si dans l'hypothèse il n'y a plus une capacité d'accueil au niveau des Kanyama, on fait comment? C'est comme ça qu'il y a des alternatives qui vont dans le sens de pouvoir travailler avec les organisations, que ce soit confessionnelles, que ce soit des ONG de développement, etc., qui travaillent et qui ont une expérience grandissante sur cette question. À ce moment-là, des gens qui ne sont pas criminels peuvent être réinsérés, j'allais dire réintégrés, réinsocialisés. Mais ceux qui sont identifiés comme criminels, il y a les cours et tribunaux qui peuvent véritablement établir les responsabilités et voir ce qui peut leur arriver. Donc nous sommes dans cette perspective. Mais croyez-moi, il n'y a pas que la réinsertion à travers un métier, il n'y a pas que le cours et tribunaux, il y a aussi la sensibilisation. C'est le travail qu'a fait le vice-premier ministre de l'Intérieur. Et c'est ce travail-là que je suis appelé également à passer sur votre radio, justement pour faire comprendre aux jeunes que nous n'avons pas de choix, si ce n'est que de suivre ce que dit le gouvernement et de s'intégrer au travers des petits métiers, d'abord commençant par chacun chez lui, et le gouvernement de la République devra s'en occuper. Aujourd'hui, on procède au recrutement des policiers, ceux qui ont quand même un certain niveau, parce que croyez-moi, il y a parmi les Kuluna, ceux qui ont été même à l'université, et compagnie, etc. Aujourd'hui, la police a besoin, la décision du Conseil des ministres, c'était d'aller jusqu'à 40 000 recrues, voilà. Ça va à Dandessi. On a besoin de jeunes gens qui croient qu'ils n'ont plus d'espoir. Aujourd'hui, le gouvernement de la République est en train de faire un effort pour la réintégration de tout le monde. Et donc, le recrutement au niveau de la police, ça c'est une recette, ça c'est évident. Mais, au fil de temps, le ministre en charge de cette question pourra faire une conférence de presse et décliner les différentes possibilités disponibles et futures pour que finalement cet encadrement se fasse avec plus d'efficacité et d'efficience.
Bien, merci professeur. Comment évolue l'opération Panthère Noire contre le banditisme urbain et que vont devenir ces jeunes après leur arrestation? On va accueillir un auditeur, le tout premier, Ismaël Mompoy, depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à son Excellence et à Mayam, le professeur.
Quelle est votre question?
Mes respects, mon général.
Quelle est votre question, Ismaël?
Oui. Je pense qu'ils sont à féliciter, mais nous les rejetons de fleurs. Mais au début de ces services, les gens ne comprenaient pas. Ils étaient insultés, traités de tout le monde. Mais maintenant, les gens ont pu voir que ces pays peuvent être changés d'une manière ou d'une autre par les citoyens, comme le général, monsieur le directeur de cabinet, en tant que les citoyens éduqués. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il y a aussi des groupes de gens, des bandes de gens qui ont été formés par les hommes politiques qui traînent. Je vous donne l'exemple de Lubumbashi, dont nous avons un parti politique qui sont ces gens-là aujourd'hui sont délaissés, qu'on appelle Ginafek. Je vous donne avec précision les quartiers dont ils ont déjà de ces gens-là, mais ils sont intouchables. Nous avons la Ginafek de Bongonga et Taba au niveau de Sadeza. Tu ne peux pas passer avec le téléphone. Tu peux être tabassé. Si on veut arrêter quelqu'un, c'est la police qui s'associe à ces gens-là. Ce sont eux qui vont arrêter quelqu'un. Vous voyez la commune Kenya. Nous avons aussi la route de Express. C'est là précisément, ce n'est pas seulement les Inafet. Il y a aussi les vagabonds et consorts là. Nous avons aussi la Kenya. Nous avons aussi les centres-villes même. Ces gens-là, ils sont là. Pourquoi, mon général, vous pouvez seulement vous occuper de Kuluna et de Kinshasa, plutôt aussi que de s'occuper aussi de Kuluna de Lubumbashi? Mais j'avais une unique question que je pouvais poser à son Excellence ou à mon général. Parce qu'il a expliqué des filières dont ces gens-là vont être métamorphosés. Mais je me suis posé la question quand il a dit que certains d'entre eux pourront réintégrer l'armée. Comment expliquer que prendre quelqu'un, un bandit, un délégant Kuluna, le faire transformer en un militaire? La question maintenant est celui-là. Comment ou quels sont les mécanismes que mon général a mis en place pour métamorphoser celui qui était Kuluna à un agent d'ordre discipliné et bien éduqué?
Bien. Comment convertir un Kuluna?
Ce service doit être étendu dans toute la République, dans la plupart des régions, parce que le besoin est énorme. Et nous les félicitons vraiment, courage.
Merci Ismaël. Bien, merci beaucoup. Merci Ismaël Moupoy. Général Kassongo, vous avez la parole.
Oui, monsieur Ismaël, je crois que peut-être vous n'avez pas bien saisi. Je n'ai pas dit que nous allons prendre une partie de ces bâtisseurs ou de ces jeunes gens après leur formation au service national pour les intégrer dans l'armée. Ça, ce n'est plus une option à ce stade. Nous n'avons plus cette option de prendre les jeunes appelés communément Kuluna, même après leur formation au service national, de les intégrer dans l'armée. Ce n'est plus une option à notre niveau. Peut-être tu m'as mal saisi. Nous avons parlé de la formation paramilitaire. Cette formation, elle s'est faite au niveau du service national, au niveau de Kanyamakase. C'est l'un des modules de formation. C'est pour leur inculquer, je l'ai dit encore, les valeurs de discipline, de règlement militaire, pour qu'ils soient beaucoup plus disciplinés. Ce n'est pas pour les intégrer dans l'armée. Donc cette formation paramilitaire, elle se fait au sein même du service national à Kanyamakassi. À votre deuxième question de demander si les services nationaux peuvent venir aussi chercher les jeunes à Lubumbashi, c'est prévu. Il est prévu parce que l'encadrement des jeunes ne va pas seulement concerner que les jeunes de la ville de Kinshasa. Il est prévu que les jeunes de Lubumbashi, que les jeunes de Kolwezi, qui est dans le Congo central, qui est dans la grande province de l'Équateur, qui est dans la grande province du Bandundu, Kinshasa, Kasaï oriental, donc dans le Grand Kasaï, que des jeunes soient pris. Et si tout va bien, les préparatifs sont déjà en cours avec le gouverneur de province qui nous a déjà contactés. Je crois que les services vont déjà être mis à contribution d'ici la semaine prochaine, si tout va bien. Nous viendrons chercher ceux de Lubumbashi. Nous avons récupéré ceux de Kinshasa, mais aussi ceux de Mbujimayi. Donc après Kinshasa, il est prévu, peut-être même concomitamment, toutes les provinces que je viens de vous citer, les jeunes vont être pris pour être amenés à Kanyamakassi. Cela nous permet aussi de faire ce que nous appelons le brassage national. Les jeunes gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent de tout le groupe linguistique du pays, de tous les quatre coins du pays, soient mis ensemble, qu'ils soient brassés, qu'ils se sentent vraiment des bons citoyens, des nationaux, et parce que quand ils vont être déployés, partout où ils se retrouvent, qu'ils se sentent chez eux et qu'ils servent leur nation. Voilà.
Bien. Professeur Norbert, une question. Je me dis, quels sont les critères sur lesquels les éléments de la police se basent pour arrêter les Kuluna? Parce qu'il peut y avoir confusion. On peut arrêter un jeune qui ne l'est pas, on peut le confondre à un Kuluna et vice-versa.
Merci beaucoup, mon ami. Mais je voudrais quand même revenir sur la première question que le général a brillamment répondu autour de la métamorphose. Comment convertir, un Kuluna pour devenir policier, compagnie, etc. Heureusement que le général l'a bien recadré. Mais je me dis qu'il ne faut pas avoir peur de la métamorphose. Quel est le but d'un encadrement? Le but d'un encadrement, c'est de métamorphoser, de changer la personne en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes d'état d'esprit. Si on n'arrive pas véritablement à changer la personne, c'est qu'on n'a pas réussi véritablement l'encadrement. C'est comme ça que Kanyamakassi est considéré comme un centre de ré-socialisation, un cadre de réintégration, un centre de réinsertion dans la société d'une personne qui a été marginalisée, mais qui, autour d'une action menée à sa direction, et dont cette personne change pour devenir normale dans une société. Et donc, on ne peut pas peut-être aujourd'hui ce n'est pas envisageable, ça c'est évident, mais quand même, ce genre-là, devenu normal, intégré dans la société, peuvent assumer n'importe quelle responsabilité s'ils en font une demande. Et ça, c'est important que je le souligne. À la question de savoir quels sont les critères, la particularité, n'est-ce pas, de Pater Noir, chef journaliste, repose au niveau de la collaboration entre la population et la police, dans le cadre de la gouvernance sécuritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que n'est identifié comme Kuluna, un criminel, etc., c'est la personne qui est connue dans une rue, dans un quartier, j'allais dire qui vit dans une rue, dans un quartier, dans une commune, dans une ville, etc. Et à différents niveaux d'atterrissage, il y a des répondants de l'État qu'on appelle des interlocuteurs sur la gouvernance sécuritaire. Et donc, on a des informations en amont. Ça veut dire, en fait, on est dans telle ou telle rue, il y a le chef de rue qui informe, je ne sais pas, le sociétaire de tel ou tel endroit, etc., pour dire que, voilà, à tel endroit, il y a telle ou telle personne qui est suspecte et qui pose parfois des actes incontrôlés. Et donc, la police, au travers l'unité qui a été responsabilisée, dont on retrouve une intelligence de la police, peut venir et prendre la personne. Mais écoute, on ne prend pas la personne sans l'écouter. On prend la personne, on va la checker, on saura qu'est-ce qu'il fait, les accusations qui ont été formulées à son endroit, est-ce que c'est concordante, etc. Et c'est donc vu au sud de tous ces éléments faisant commune qu'on peut tirer la conclusion que c'est un Kuluna et que mérite tel ou tel niveau d'encadrement. Voilà comment les choses se font. Donc c'est de manière intelligente. C'est pas comme on a vécu l'école où on trouve, on prend, parfois on peut séquestrer, on peut. C'est pas pour rien qu'on les envoie à Kanyamaka CC. Donc, il faut savoir préparer aussi les morales des gens. Mais quand quelqu'un s'avère un criminel, il a tué, il a blessé, il a fait ceci, etc., je pense, il y a un jugement avant de poser tout acte qui va suivre. Voilà un peu ce que je peux vous dire en termes d'identification. Parce qu'il y a un travail collaboratif entre la police et la population, qui donne des informations fondées, et ces informations sont vérifiées. Et une fois vérifiées, on peut orienter la personne. Voilà.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Ebondo nous appelle des Kabinda, dans la Lomami. Bonjour Ebondo. Ebondo, bonjour. Il n'est plus là. Achille est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour Achille.
Bonjour Jody, bonjour aux invités, bonjour aux auditeurs.
Quelle est votre question?
Ouais, nous saluons quand même cette initiative parce que nous en avons déjà parlé. S'il y a déjà des personnes qui ont été arrêtées, c'est une bonne chose pour la ville de Kinshasa. Mais je voudrais quand même, monsieur l'invité, je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure là que vous avez déjà réussi à arrêter plus ou moins 500 bandits ou Kuluna. Monsieur l'invité, quand vous les avez arrêtés, je pense que vous avez essayé de quoi déposer la question à certains de ces gens-là. Quand vous avez essayé de poser la question, quelle a été la réponse que vous ont donnée? Donc, c'est quoi la motivation d'abandonner une vie normale et se lancer dans cette vie-là, dans la vie de quoi, de voyoucratie ou bien de banditisme? Quelle a été la réponse? Voilà la question que je voulais savoir.
Bien, merci. Il y a également la question de Papi Okito depuis Goma. Il est journaliste, il dit ceci. Bonjour, une question au général. Aujourd'hui, presque 5 ans à la tête du service national. Quel bilan vous pouvez dresser sur l'intégration des Kuluna, mais aussi sur la production des produits alimentaires et des matériels, etc. Général Kasongo, à vous la parole.
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais répondre à notre frère qui est à Goma. Oui, 5 ans au service national, quel est le bilan? Sauf fausse modestie, je dirais que le bilan est très positif au regard des résultats que nous avons eus sur le plan de l'encadrement de la jeunesse. Il
il faudrait dire que à notre actif, en tant que service national, nous avons eu l'encadrement de plus ou moins, aujourd'hui, à ce jour, plus ou moins 7000 jeunes. Le premier lot de jeunes que nous avions encadré, parce que les gens n'en ont pas parlé assez, c'était entre 2019 et 2020. On avait encadré des jeunes qui étaient venus de groupes armés. Des groupes armés de l'Est et des groupes armés du Grand Kassai qu'on appelait les Kamunasa. Les groupes armés de l'Est, il y avait les Apanapale, les Raïa Mutomboki, ainsi de suite. 3000 jeunes avaient été mis à la disposition du service national pour leur encadrement. Ils ont été très bien encadrés, mais à l'époque, c'était que lorsqu'ils terminent leur encadrement, parce que ce sont les forces armées qui avaient mis ces jeunes à notre disposition, il fallait le remettre à la disposition des forces armées. Et qu'ils sont devenus, ce n'est pas à moi de le dire, et nous avions fini la formation, nous les avons remis entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Après cela, il y a eu une deuxième vague, celle d'encadrement des 4000 jeunes, qu'on appelle Kuluna. Ils sont partis de Kinshasa, ils sont partis de la province du Congo central, du Grand Bandundu, du Kasaï central et du Grand Katanga. Et avec ces jeunes, après leur formation, nous avons reçu les instructions du commandant suprême, du chef de l'État, qui devait rester au service national et être fait bâtisseur de la nation au service national à part entière. Ces jeunes, tous, ils sont service national. C'est avec eux que nous avons créé des bataillons et des régiments de reconstruction. Nous avons un bataillon de reconstruction qui est déployé dans le Kassai oriental, qui fait un travail formidable, où les écoles sont construites et équipées par les services nationaux. Nous avons un bataillon de reconstruction dans le Kassai central. Nous avons un bataillon de reconstruction dans le Grand Katanga, où ils sont déployés une partie à Kamina, une partie à côté de dans les territoires de Kasenga, et une partie est même déployée à Ankoro, dans la province du Tanganyika. La deuxième vague de ce groupe de 4000 vient d'être déployée ici à Kinshasa, où ils sont, nous avons tout un régiment, donc deux bataillons qui sont déployés à Kinshasa. Ils vont s'adonner aux travaux de reconstruction, notamment la construction et la modernisation de la maternité de Kitambo, et la fabrication de bancs, la construction de certaines infrastructures scolaires et hospitalières ici à Kinshasa. Ici, déjà, je voudrais vous informer que dans le cadre de la fabrication, les bataillons de menuiserie a déjà commencé à fabriquer le banc qui, à partir d'aujourd'hui, vont commencer à être dotés dans différentes écoles de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, il y aura une cérémonie de remise de bancs scolaires dans les écoles de la ville de Kinshasa, et le week-end à l'université de Kinshasa. Ils sont là, ils sont commis à ces travaux. Donc sur le plan de l'encadrement de la jeunesse, les choses évoluent très très bien.
Bien, alors il y a monsieur...
Oui. Une partie est restée à Kanyamakase, c'est parce qu'ils sont ouvriers agricoles, et d'autres sont dans la mécanisation agricole parce qu'on doit continuer avec les travaux de reconstruction, et les travaux d'agriculture. Mais sur le plan de la production agricole, c'est vraiment des efforts énormes qui ont été faits. Le service national qui n'avait que deux tracteurs, aujourd'hui, je parle ici qui est du centre pilote de Kanyamakase, je ne parle pas des autres centres de production. Le service national à Kanyamakase, c'est à plus de 60 tracteurs. Les engins, tous les engins compris, on est à plus ou moins 80 engins. Les moissonneuses batteuses, les semoirs, les camions et tout ça. Donc, sur le plan de la production agricole, on est parti de 0 tonnes. En 2018, à mon avènement au commandement du service national, et l'année dernière, on est arrivé à 15 000 tonnes de maïs produits. Au moment où je vous parle, la production, la récolte, on a lancé la récolte à Kanyamakase. Bientôt, on va lancer la récolte dans le Congo central, dans notre centre de production de l'OVO. Et on va lancer la production, la récolte à Katwambi Chibashi à Kananga. Nous avons une très grande ferme. On va lancer la récolte dans le Haut-Katanga, petit à petit, de manière tentaculaire, les services nationaux vont se déployer sur l'ensemble du territoire national.
Bien, avant de répondre à la question d'Achille, on va accueillir Tagamile Agathe de Bounia. Bonjour. Tagamile, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'opération Panthère contre le banditisme, contre le Kuluna, comment ça évolue. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, Tagamile de Puibounia?
Bon, j'ai une observation, mais c'est aujourd'hui. Vous savez que ce phénomène n'est pas seulement à Kinshasa,
Oui.
La nettoyant, c'est observable. Maintenant, sous une autre forme. Ici, chez nous, par exemple, il y a ce phénomène de banditisme, mais aussi juvénile, et qu'on appelle l'ouloro. C'est un phénomène qui a pris vraiment de l'ampleur ici dans la ville de Bougna. Mais en amont, déjà, nous avons salué les efforts du gouverneur militaire, Johnny Luboya Kachama, qui, à travers la mairie de la ville, ils ont essayé quand même un tout petit peu de giguler ce phénomène de vol. Parce que ces jeunes, ils sont là, ils créent des exactions terribles, ils violent, ils volent et tout ce qui peut en suivre. Alors, j'ai une observation et du tout, ça me renvoie à poser une question. Tout ce que vous voyez, monsieur Jody, que ces jeunes sont en train de faire, c'est aussi la conséquence des manques d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi et vous voyez... ce phénomène de banditisme Kuluna de Kinshasa date depuis longtemps. Et il y a des résolutions en amont, très hautes, avec le gouverneur sortant, Jatini Mubila, qui disait non, il faut vraiment équiper les jeunes et il faut créer des emplois aux jeunes. Et, mais jusque-là, bon, on ne sait pas si ça en est où, parce que quand les jeunes volent, tout à fait, c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et vous savez que Kinshasa est une ville vraiment fortement.
Oui, Tagamile, ces jeunes qui volent, est-ce qu'on peut dire que ce sont les jeunes déplacés des guerres qui viennent d'Enjougou, d'Irumu, de Mambasa et autres territoires de l'Ituri?
Bon, vous savez, cette histoire a essayé d'inclure beaucoup de jeunes. Les autres sont même les jeunes d'ici de la ville, mais les autres, il y a une catégorie de jeunes qui viennent aussi, qui sont ici, qui se déplacent. Alors vous voyez, c'est une cacophonie des choses et on n'arrive plus à identifier. Alors donc, c'est question seulement de donner et de mettre à plat l'emploi aux jeunes. Et je pense que ça va essayer de juguler ces petits problèmes. Et je pense que ce sera une piste de solution par rapport à cela. Tagamile, à partir de l'Université Shalom de Bounia.
Bien, merci Tagamile de Bounia. Professeur Norbert... Quelle est votre réaction?
Non, je voudrais saluer tous les intervenants qui posent des questions pertinentes. Tous, nous avons la responsabilité de rechercher des solutions pour notre peuple, pour nos jeunes gens qui sont l'espoir de demain. Monsieur le journaliste, j'ai eu, dans ma carrière professionnelle, de faire une étude en 2004. Dans la ville de Kinshasa, pour savoir le phénomène. À l'époque, c'était les enfants de la rue ou les enfants en situation difficile. Ils avaient 9 ans à l'époque. Aujourd'hui, la moyenne, c'est de 19 ans plus. Et dans l'étude qui a été faite, du moins pour les jeunes qui ont constitué l'unité d'observation, 98,7% des chez jeunes ont été ici des parents pauvres. Et à cause de la misère, ces jeunes sont dans la rue, ces jeunes posent des actes incontrôlés. C'est très clair que ces jeunes qui cherchent quoi manger, etc., n'en trouvent pas. Et voilà, ils optent pour la facilité et poser des actes. Maintenant, le plus grand problème, c'est que ces jeunes-là ne sont plus jeunes. Ils sont devenus adultes. Et ils font profession véritablement, cet état de choses. Donc la question qui a été posée, celle de savoir qu'est-ce que les jeunes disent, c'est très clair. Ces jeunes, pour la plupart, n'ont pas de moyens de survie, etc. Et ils font la facilité, au lieu de se travailler, au lieu de se débrouiller comme tout le monde. Raison pour laquelle on dit, mais écoutez, il faut réencadrer. Le centre de Kanyamakasese en fait foi. Un exemple frappant. Vous ne pouvez pas imaginer la progression, j'allais dire, l'avancée spectaculaire en termes de résultats de ce centre. C'est aujourd'hui, le gouvernement de la République, au travers le leadership du président de la République, a levé l'option pour des grands marchés de la République de reconstruction parce que le Congo s'est chétien. Il faut donc se servir de ces jeunes qui sont formés à Kanyamakasese pour que finalement ils viennent travailler et ils sont. Il y a beaucoup de travaux qui vont démarrer ici à Kinshasa. Vous avez suivi les différents champs agricoles qui sont réalisés dans beaucoup de provinces aujourd'hui, etc. Donc, certes, si on assiste à ce qu'on est en train d'assister, il y a d'abord le problème d'instabilité de famille qui ne savent pas prendre véritablement leur rôle, encore qu'il faut se battre, parce que nous sommes dans une situation très difficile. Il faut que chaque famille, malgré les difficultés, malgré les douleurs, etc., doit s'occuper de ses enfants. Deuxièmement, il faut envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils aient un minimum d'éducation. Et le gouvernement de la République a résolu de rendre opérationnel l'article 43, où la gratuité est opérationnelle. Certainement que ça ne manque pas de problèmes, mais il faut commencer quelque part. Si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Et bon, il faut également les réencadrer dans un système non formel, comme centre de Kanyamakassi. Vous avez aussi d'autres centres à travers les provinces et compagnies, etc. Donc, pour répondre directement à la question, il y a un problème d'instabilité, un problème de pauvreté, mais qu'on ne peut pas pardonner parce que chacun de nous, on se trouve tous dans cette situation, on est en train de se battre pour s'en sortir, mais il faut se battre proprement au lieu d'aller devenir criminel dans la société pour indisposer les autres.
Bien, il y a une question, on va accueillir d'abord un auditeur et puis je reviens à la question d'Achille. Guy Ikoko, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'opération Panthère Noire contre les Kulunas?
Voilà, exactement. Parce que j'ai suivi l'exposé du directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. J'ai suivi la réponse du général.
Oui.
Mais j'avais deux questions. Une question à chacun des invités, donc. Mais qui sont aussi une forme de proposition. Alors, je voudrais demander à monsieur le directeur de cabinet, parce qu'il a la gestion du ministère de l'Intérieur. Ne serait-il pas possible, parce que j'ai eu à croiser des jeunes encadrés au niveau du centre de Kanyamakassi, et j'ai été émerveillé par leur comportement et attitude. Allô, vous me suivez?
Oui, on vous suit très bien. Ils ont toujours des mauvais comportements? Ils affichent un mauvais comportement?
J'ai vraiment apprécié le comportement. Et encore récemment, il y a deux jours, j'en ai croisé ici à Mongafula et j'étais complètement ébahi par la transformation obtenue. Mais ce que je voudrais demander au général d'abord, est-ce qu'il ne serait pas possible, dans ce cadre-là, c'est vrai que vous récupérez des délinquants, mais il y a des jeunes gens, avec moi qui étaient aussi émerveillés, ne serait-il pas possible de recevoir aussi des jeunes qui aimeraient suivre ce genre de formation dans votre centre-là, qui n'ont rien à voir avec la délinquance, et éventuellement renforcer les moyens avec beaucoup plus de métiers, en faire une sorte de grand INPP. Parce que la plupart des jeunes, versent dans la délinquance aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se former. Quand vous allez dans quelques centres de formation professionnelle, ça coûte excessivement cher. Or, il y a des jeunes qui veulent bien apprendre un métier, mais qui ne savent comment se caser. Alors, la question au niveau de directeur de cabinet, c'est par rapport à leur responsabilité, ne serait-il pas possible de collaborer encore plus avec le ministère de la Justice? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de désengorgement des prisons. Il y a des gens qui ont déjà effectué un certain nombre de mois ou d'années. Ne serait-il pas possible pour ceux qui sont sans profession ou sans profil professionnel de les envoyer là-bas? Parce qu'il se pose aussi un problème. C'est d'abord les conditions d'existence dans les prisons et puis les conditions d'alimentation, soyons sincères. Ne serait-il pas possible de les orienter? Comme ça, ils ont un métier et quand ils purgent le reste de leur peine, au lieu de tout le temps les garder en prison. Voilà mes deux questions.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guy Ikoko, depuis Kinshasa. Mon général Kassongo, à vous la parole.
Please consult your directory and call again.
Oh, désolé, le général n'est plus là, Tati? Voilà, on va les relancer dans quelques instants. Entre-temps, le professeur Norbert, qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Guy Ikoko?
Ok. Monsieur Guy, d'abord, merci beaucoup pour vos propositions pertinentes. Sincèrement, vous avez la clairvoyance par rapport à la question. Vous méritez toutes nos félicitations. Alors, monsieur Guy est allé un peu plus loin. Outre les délinquants, il y a des jeunes gens qui sont dans la cité, mais qui vivent des conditions difficiles et qui auraient pu qui ont besoin de ce type d'encadrement. Vous avez raison, M. Guy. Vous savez, même en sociologie, il est dit que lorsque on veut réinsérer une personne, et, il faut que cette personne puisse consentir. Quand il consent, il va s'approprier de la dynamique qui est mise en place, et c'est très clair qu'il va aller de victoire en victoire. Le cas que nous faisons ici, c'est un cas spécial où il y a des délinquants. Certainement que, bon, ces délinquants-là, on n'avait pas de choix, il faut forcer la chose, etc. Nous sommes en train d'avoir des résultats. Rien ne nous empêche, moins encore une barrière, pour que nous puissions aussi prendre en considération les jeunes gens qui ne sont pas inclus dans la catégorie des criminels. Vous savez, dans la réflexion au niveau du ministère, nous sommes en train de réfléchir. De réfléchir comment arriver, outre les délinquants, s'occuper de cette catégorie de personnes. Vous savez, à l'époque, avant que l'initiative Kanyamaka Sesen arrive, il y avait des ONG ici, dans la ville, parsemée où on avait besoin des jeunes, on avait besoin des personnes, etc. Et on devrait les resocialiser. Il y a eu des résultats, il y a eu une intégration compagnie, etc. Bon, on est dans cette direction-là, mais aujourd'hui, au moins, on a un centre qui fait des preuves et qui aurait pu être élargi. Il faut encore la réflexion, encore qu'il faut réunir les moyens nécessaires par rapport à tout ça. À la question de savoir une certaine collaboration, certainement qu'il y a une collaboration entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, ils font partie tous, n'est-ce pas, du comité national de sécurité, comité national de sécurité. Et là, c'est un cadre d'échange d'informations, d'échange de stratégies, des renforcements mutuels et compagnie, etc. La proposition que vous donnez par rapport aux prisonniers, c'était aussi une proposition pertinente. Mais vous savez, dans l'histoire de la prison chez nous, et même pas chez nous, à travers le monde, etc., c'est aussi un lien de réintégration. La plupart des bâtiments, des immeubles qui ont été construits à travers le monde, ce sont des prisonniers. Beaucoup d'activités agricoles, ce sont les prisonniers, etc. Certainement qu'on a lâché prise, et ta proposition tombe à propos, et je pense que ça fait partie... c'est pas des éléments qu'on va verser dans l'agenda pour réfléchir davantage.
D'accord,
et comme le général Kassongo est là,
d'accord,
je pense qu'il peut nous aider à pouvoir avoir des orientations précises par rapport à la question.
D'accord, général, vous avez la parole rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Merci beaucoup. C'est vrai, à la question de notre frère qui demande si on peut intégrer des jeunes volontaires, c'est prévu. Vous savez, c'est vrai que nous sommes en train de remonter de la pente, nous venons de très loin, les études viennent d'être finalisées, nous sommes en train d'entrevoir la possibilité d'ici l'année prochaine, en dehors des délinquants que nous sommes en train de récupérer au service national, de donner la chance aux jeunes volontaires aussi de venir intégrer le service national. C'est question de moyens, comme vous venez de le dire, mais pas seulement de moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Vous savez, c'est une formation spécifique au service national. Il faut avoir suffisamment d'instructeurs, d'encadreurs, parce que c'est une formation qui est spécifique. Il ne suffit pas tout simplement de prendre les jeunes volontaires qui viennent d'un coin du pays, vous les mettez dans un centre, qu'est-ce que vous en faites après? Donc il y a des spécialistes qui doivent être, nous devons préparer, nous devons avoir suffisamment d'instructeurs, suffisamment de formateurs, suffisamment d'encadreurs, pour nous permettre de faire un travail de qualité. C'est prévu, nous sommes en train déjà de former des instructeurs. Vous serez surpris, mon frère.
Mais,
si je vous dis que parmi les instructeurs et les encadreurs, il y en a ceux qui étaient appelés des Koulouna, mais qui sont de très bons instructeurs. Nous avons
mon général, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le commandant du service national. Excellente journée, à la prochaine. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. À la prochaine. Merci.